Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Cette semaine, Conflit vous propose une émission qui n'a pas été tournée par des membres de Conflit, mais où interviennent plusieurs auteurs que vous lisez régulièrement dans nos colonnes, Charles Gave, Xavier Hofer, Hervé Juvin, trois auteurs qui discutent, qui dialoguent autour de la situation des États-Unis. Il nous a paru très intéressant de vous proposer cette émission, que vous pouvez également retrouver sur le site de l'Institut des Libertés pour sa version vidéo.
Alors là, on est à l'Institut des Libertés, mais pour une fois, ce ne sera pas un monologue de l'Institut des Libertés, ou un, comment on dit quand il y a deux personnes qui parlent à
l'Institut. Un dialogue.
Un dialogue, oui. Mais non, c'est pas vraiment des dialogues, parce qu'on est d'accord en général. Et donc, je suis aujourd'hui avec Hervé Juvin.
Bonjour, Charles.
Bonjour, vous êtes déjà venu deux ou trois fois. Avec Xavier Hofer, vous êtes venu aussi deux ou trois fois. Et je vais vous laisser vous présenter un peu plus, mais ce sur quoi on va essayer de réfléchir ensemble, c'est quelque chose d'assez curieux, c'est que l'ordre américain est en train de s'écrouler, on en a souvent parlé, et on va essayer de réfléchir sur quelles sont les nouvelles tendances lourdes qui apparaissent sur lesquelles on peut bâtir une politique. Voilà, donc pas une politique, peut-être une politique économique, peut-être une politique diplomatique, peut-être une politique financière, ce qui est mon métier. Mais je voudrais qu'on essaye à trois de dire, bon, mais qu'est-ce qui nous semble émerger et qui a une capacité à rester. Donc, je vais commencer par vous, Xavier. Vous allez me dire un petit peu comment vous ressentez le monde aujourd'hui.
Alors d'abord, je le vois à partir de mon métier d'origine, criminologue, c'est-à-dire que j'étudie les phénomènes criminels, non pas les voleurs de poules, mais les grands flux criminalisés à l'échelle mondiale, flux d'êtres humains trafiqués, flux de stupéfiants, flux d'armes, flux d'argent noir. Et ça permet de voir beaucoup de choses. Alors, commençons d'abord par les États-Unis. Vous parliez des États-Unis comme un pays en train de s'effondrer. Ce que je vois, moi, alors naturellement, j'enseigne dans une université américaine, hein, à George Mason University, à Washington. Donc, il y a un institut qui correspond un peu à ce que je fais en France, qui étudie en parallèle les affaires de criminalité, de corruption, de grands trafics internationaux. Et donc, j'y vais de temps en temps. Et j'ai des contacts qui me permettent d'être alimenté en informations précises sur ce pays. Ce pays va très mal.
Très mal.
On n'en parle jamais, mais ce qu'on appelle les morts par désespoir, la quantité immense d'individus qui se droguent jusqu'à en mourir, qui boivent de l'alcool jusqu'à en mourir, qui se suicident. Voilà. Et qui se droguent, mais... L'appétit des États-Unis pour les stupéfiants est hallucinant. Aucun peuple au monde ne se gave de toutes les cochonneries qu'il est capable de trouver sur la planète. La dernière, bien pire que le fentanyl, et imaginez-vous, c'est une drogue vétérinaire qui sert à endormir les grands pachydermes ou les grands fauves. Quand un éléphant a une rage de dents, ben on peut pas simplement lui donner un cachet d'aspirine. Alors il y a cette drogue-là, et quand on la mélange avec du fentanyl, le résultat naturellement potentialise, parce que c'est toujours plus. Hein. C'est la loi des rendements décroissants. Il faut prendre toujours plus pour avoir une sensation toujours moindre. Et à la fin, on meurt, parce qu'on en prend une dose fatale. Et donc cette nouvelle drogue, quand on se l'injecte, vous couvre... ça fait de vous comme un pestiféré ou un lépreux. Vous vous couvrez de pustules noires, c'est une horreur. Les gens ressemblent littéralement aux zombies des films d'épouvante. Et cependant, chaque mois, chaque année, plus d'Américains en prennent. Donc ça, plus les massacres de masse, le fait qu'un type sorte dans la rue parce qu'il supporte plus rien et puis il prend son fusil et tue tout ce qui bouge, c'est le signe d'un pays qui est en grande difficulté, en grande souffrance. Et aussi le fait que face à cette situation-là, deux Amériques existent désormais à moitié-moitié. C'est plus comme du temps de la guerre de sécession avec 10 États dans un coin et puis tout le reste de l'autre. C'est à peu près 25-25 ou 24-26 ou 23-25, c'est-à-dire ceux qui prônent le retour à l'Amérique traditionnelle avec ses valeurs et ceux qui sombrent toujours plus dans le délire LGBTQ, machin, etc. Et maintenant, pour avoir
géographiquement, c'est très intéressant parce que c'est sur les bords que tous les fous sont.
Oui. Et, il y a deux parenthèses,
et puis un petit peu du côté de Chicago, où ils sont pas bien normaux aussi. Et puis tout le reste, quand vous regardez le nombre de cantons aux États-Unis qui sont républicains, vous voyez que du rouge, quoi. Et puis les bleus, il y en a que là. Mais c'est là où il y a des très grandes populations. C'est là où il y a des concentrations de population énormes, alors il y en a pas. Et donc, en effet, on a l'impression que l'Amérique, un petit peu, est au bord de la guerre civile, quoi.
Alors, il y a des mécanismes qui font que ça bascule pas facilement dans cette direction-là. Il faut vraiment un choc gigantesque pour qu'on dépasse ça. Mais ce qu'on constate, c'est la différence énorme entre des secteurs des États-Unis. C'est pas des États, ça passe à travers les États, des secteurs des États-Unis où la criminalité est celle de la Suisse ou celle de la Finlande et d'autres où c'est celle du Nicaragua ou du Salvador. C'est-à-dire, on passe de 2 ou 3 homicides pour 100 000 habitants. L'Union européenne, en gros, c'est 2 pour 100 000. Donc des taux européens. Et on passe à des taux à 100 ou 90 pour 100 000,
où, c'est-à-dire énorme. Où sont les endroits les plus dangereux? C'est Chicago,
c'est certains endroits, par exemple la Nouvelle-Orléans.
Oui, c'est
par exemple le nord de la Californie, parce que parmi les mesures idiotes qui sentent quand même là, pour aller dans votre sens, qui sentent furieusement le bas empire. Quand on laisse les gens faire n'importe quoi avec n'importe quel produit, c'est pas bon signe. Et donc, la libéralisation du cannabis en Californie a produit un chaos et une catastrophe absolument incommensurables, dont on ne parle jamais dans les médias français.
Et non, ils sont favorables à la libération du cannabis.
Ah oui, mais alors le résultat, c'est que comme c'est un pays sous-administré, les États-Unis, toutes sortes de boutiques de vente de cannabis se sont ouvertes, dont pas une sur 10 n'a la licence, mais on ne sait pas lesquelles sont les vraies et lesquelles sont les fausses. Et en plus de ça, maintenant, par piratage informatique, on arrive à introduire des données dans l'ordinateur de la mairie qui elle-même ne sait plus qui a payé la licence ou qui ne l'a pas payé, c'est authentique. Et dans les fosses qui vendent du cannabis comme celles qui ont une véritable licence de l'État, les gangs se sont infiltrés, ils vendent maintenant de l'héroïne, de la cocaïne, du fentanyl et tout. Il y a des prostituées qui sont dans la pièce d'à côté et donc c'est devenu des espèces de cours des miracles absolument invraisemblables. Et rien que dans les quartiers de Los Angeles. Alors vous savez, c'est le contraire d'en France. Le bazar est au milieu et la tranquillité est en banlieue dans les villes américaines. Donc, dans South Central Los Angeles, des boutiques comme celle dont je vous parle, il y en a déjà plus de 3000. C'est pas un cas individuel. Donc, le bazar...
Et à San Francisco, c'est pas mieux.
Voilà.
Et à San Francisco, c'est pas mieux. Donc, on a...
Donc, vous êtes ce en train pays de dire, va mal.
Ce pays va mal et, dans le fond, il va mal parce qu'il a laissé tomber... son système d'éducation, la famille, il y avait tout ce qui faisait la force des États-Unis, c'est parti à volo, quoi.
Les universités américaines sont devenues un bazar.
Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. On apprend que des bêtises. Bon, alors donc on a les États-Unis qui sont dans un état de décomposition. En tout cas, une partie des États-Unis qui sont dans un état de décomposition. Maintenant, dans le domaine des relations internationales, etc., je me tourne vers vous.
Juste une petite seconde pour dire que tout ça s'accompagne de l'explosion toujours plus hystérique d'un budget militaire dont on ne sait pas à quoi il va servir, mais il y a toujours plus de légions et Rome est en train de s'effondrer, quoi.
Mais c'est pas tellement qu'il y a des légions, c'est qu'on achète de plus en plus de catapultes, mais que, par exemple, l'armée américaine a un déficit... De soldats, d'à peu près 30%, parce que les types qui arrivent maintenant pour s'engager, ne sont plus capables ni intellectuellement ni physiquement d'être soldats.
Bien sûr.
C'est comme le rapport Villermé. Ouais, ouais. C'est comme le rapport Villermé en 1830 en France. La population est dans un état physique. Et d'ailleurs, l'espérance de vie baisse aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Alors, justement, on en vient à le côté politique international. Ils ont donc cet immense budget militaire. Je crois qu'ils investissent plus dans les budgets militaires que les 10 autres pays suivants pris ensemble, ou quelque chose comme ça.
Facilement.
Et on a l'impression que vers le début des années... Mais je dirais, pendant les années Clinton, ça a commencé, mais ça a été ensuite avec Bush, etc. Les États-Unis, qui étaient perçus comme un pays, à la, si j'ose dire, à la suprématie bénigne. Elle faisait pas, ils étaient plutôt gentils, quoi.
Bénigne neglect,
elle était là, ils étaient plutôt gentils. Et ils sont devenus un pouvoir méchant et agressif. Et c'est ça aussi, ça va pas du tout dans l'éthos des États-Unis que j'ai connu moi dans ma jeunesse, en particulier quand vous alliez dans le Middle West, etc. Ils étaient des braves gens, ils demandaient qu'à... Ils cherchaient à faire le bien, quoi. Par exemple, c'est les États-Unis qui, de tous les pays, exportent le plus de charité. Vous savez, d'argent pour les gens pauvres, etc. Ils sont d'une générosité, mais
ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Vous allez au fin fond de l'Amérique, ils sont toujours aussi nice et toujours aussi gentils. Ouais,
ouais. Gentils, là. Et puis
ils vous
là,
accueillent volontiers.
Et vous avez donc l'impression qu'il y a une espèce de pouvoir un peu militaire et brutal qui a pris le contrôle de Washington. Et qui exerce ce pouvoir maintenant de façon violente, d'abord contre la population, et ensuite contre d'autres pays. Et est-ce que vous le voyez, ça ?
L'histoire récente, Charles Gave, l'histoire récente illustre très bien ce que vous dites. On peut considérer que les États-Unis, nous pouvons discuter des dates, mais probablement jusqu'aux années 80, d'autres diraient jusqu'aux années 2000, ont plutôt réussi à dominer le monde en y apportant de la paix, de l'ordre et du progrès, et que ne pouvant plus rester une puissance d'ordre, parce que toutes les tentatives américaines de nations building, de states building, toutes les interventions étrangères depuis l'agression contre la Serbie ont misérablement échoué. Et dorénavant, les États-Unis ne parviennent à espérer garder leur puissance dominante qu'en semant partout le chaos, le désordre et la désolation. Regardez la liste établie par le général Wesley Clark.
Oui, c'est incroyable.
Wesley Clark avait établi sans aucune pudeur la liste des pays à détruire parce qu'ils s'opposaient à l'impérium américain. Cette liste est très intéressante. Vous y trouvez naturellement l'Irak, vous y trouvez naturellement la Syrie, vous y trouvez naturellement l'Afghanistan, vous y trouvez le Soudan, ce qui en ce moment est du plus haut intérêt quand on voit la guerre civile absolument terrifiante. Il n'y a plus de témoins. Tous les étrangers des fondations, les diplomates, les missions d'aide sont partis. Dorénavant, on peut redouter un bain de sang au Soudan. Et probablement, est-ce que nous sommes face à une puissance américaine qui a perdu tous ses repères et qui ne sait plus que diviser pour régner et qui ne sait plus que semer le chaos et la désolation. Trop de pays dans le monde l'ont supporté. Je crois d'ailleurs que le phénomène le plus important qui se déroule aujourd'hui, puisque vous nous conduisez à parler de géopolitique, c'est le fait que le reste du monde ne supporte plus le double standard, fait ce que je vous dis de faire, mais ne fait surtout pas ce que je fais. Le monde ne supporte plus les sanctions unilatérales, ces embargos, etc., qui ont des conséquences humanitaires dramatiques. Madeleine Albright déclarant que la mort de dizaines de milliers d'enfants irakiens, faute de médicaments, ne l'empêchait pas de dormir.
C'était le prix à payer. Oui.
C'était le prix à payer. Mmh. Voilà, elle l'assumait. Eh bien, je crois que le monde entier ne supporte pas cela. Alors, si vous me permettez, ce qui se passe, c'est qu'à travers des formes très diverses, que sont l'Organisation de coopération de Shanghai, que sont les BRICS, que sont des organisations régionales, le monde est en train de s'organiser pour se mettre hors de portée de l'agressivité américaine.
Oui.
Par exemple, le monde est en train de se dédollariser à grande vitesse.
On en parlera.
Par exemple, le monde essaye de se protéger contre les menées quelquefois criminelles, en tout cas déstabilisatrices, des grandes fondations et des grandes ONG américaines.
Oui.
Et j'en vois un exemple frappant dans ce qui devrait être une des actualités majeures des temps à venir. C'est la Chine qui est parvenu à obtenir un accord de rétablissement des relations diplomatiques, mais qui est bien plus que cela. C'est un accord de coopération entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est la Chine qui est derrière un plan de paix avec l'Ukraine, qui a quelques chances d'aboutir, après que les États-Unis aient saboté le plan établi par Naftali Bennett, le premier ministre israélien, notamment disant que si Zelensky souscrivait à ce plan, les États-Unis ne donneraient pas un dollar pour la reconstruction de l'Ukraine. Et l'élément probablement le plus important sur la carte du monde actuelle, c'est la réconciliation discrète et silencieuse qui a lieu entre la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde, ce qui ne s'était jamais fait dans les années passées, échangent régulièrement des visites ministérielles, entretiennent des conversations à peu près permanentes dans le cadre des organisations régionales, l'ASEAN, les BRICS, l'organisation de Shanghai, et très clairement, désormais, ni l'Inde ni la Chine ne se considèrent plus comme ennemis. Ça, c'est un mécanisme qui est en train de changer la face du monde.
Il faut leur expliquer que ce n'est pas la peine d'aller se mettre sur la gueule pour les trucs dans l'Himalaya à 6000 mètres d'altitude.
C'est devenu totalement anecdotique.
C'est parce que c'est...
Tit for tat, disent-ils.
Dites-nous.
Juste un point précis, concret, pour confirmer ce qu'il y a de dire Hervé. Lui et moi, au début de cette année, avons rencontré un personnage qui pèse un certain poids dans la diplomatie du Golfe arabo-persique. Et homme calme, avec la suavité habituelle des Bédouins, vous savez, mais quand même hors de lui. Et il nous a dit la chose suivante, qui m'a beaucoup frappé. Il nous a dit que cette région du monde avait tout ce qu'il fallait pour être heureux.
Oui.
Ils ont du fric, ils ont des projets pour l'avenir, ils ont une population dans laquelle la jeunesse s'est complètement sortie de la tête les histoires de djihad.
Oui, oui.
Maintenant, vous parlez du djihad à un jeune Saoudien ou à un jeune Émirati, il vous regarde comme je regardais mon grand-père quand il me racontait pour la 157e fois la bataille de Verdun. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est un truc de vieux. Quoi. C'est... Pardon, c'est, pas ça le c'est plus ça le problème. Et donc, ce personnage nous a dit la chose suivante. On a tout pour être heureux, il y a un seul truc qui nous désole. Nous, il parlait du Conseil de coopération du Golfe. Hein. Il y a un truc qui nous turlupine, mais qui, plus que ça, nous désole. Nous sommes la seule partie du monde à subir encore quelque chose qui a dû disparaître vers la fin du Moyen-Âge, vers la fin des guerres de religion. En Europe, c'est des guerres de milices. C'est-à-dire, non pas des armées nationales, mais... Des espèces de bandes armées comme ça qui s'affrontent et qui ravagent tout, etc.
C'était les grandes compagnies en France.
Voilà, voilà. Ben oui, mais c'est Jeanne d'Arc quand même, c'est pas hier matin, quoi. Donc, il dit, alors, pendant 20 ans, on a fait le siège de nos amis américains en leur disant, les guerres de milices, c'est pas terrible, il faudrait peut-être qu'on arrête parce que ça nous fait une réputation horrible. Deuxièmement, les gens osent pas venir. Troisièmement, on passe pour des sauvages, etc. Et nos amis américains disent « Oui, oui, on voit très bien ce que vous voulez dire. » Et ils envahissent l'Irak. Et au lieu d'avoir 3 guerres de milices, maintenant on en a 4. Alors on ne peut plus les supporter, c'est fini. Voilà, dehors. Ouais,
c'est exactement ça, parce que nous, on a de bons contacts, en particulier avec la Abu Dhabi, parce qu'on connaît bien la Abu Dhabi Investment Authority. On connaît bien tout
la
ça.
DIA.
La DIA, qui est un... Je connaissais très bien le gars qui l'avait créé. On était... je vous raconterai l'histoire. Mais
c'était un Français.
Il y avait Jean-Paul Villain.
Voilà, ben oui,
c'est Jean-Paul Villain. Mais Adia, celui qui a vraiment créé Adia, c'est un gars qui s'appelle Arab Al-Damaki, qui est un vieux copain. Et il était en train de faire ses études aux États-Unis au début des années 70. Il reçoit un coup de téléphone du chir local qui lui dit donc, on reçoit du pognon de partout. Et j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire, parce que le pauvre, il ne comprend rien. Il s'occupait de ses chameaux, lui. Et est-ce que tu peux venir rentrer? C'était une bonne famille, il s'est occupé de ça. Donc il a dit, mais je fais mes études de médecine aux États-Unis. On lui a dit, tu rentres. Alors il est rentré, il a créé Adia. Et maintenant, quand on discute avec lui, on l'a vu encore récemment au Moyen-Orient, là, ils ont une espèce de haine contre les États-Unis.
Ah oui.
Mais c'est extraordinaire de voir.
Ils sont exaspérés.
Ils sont exaspérés. Ces gens n'ont pas de parole. Et alors, ils disaient, ils n'ont pas de parole. Bon, ça peut encore, mais ils n'ont pas de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis étaient passés de gens qui étaient plutôt gentils et qui avaient un fond quand même chrétien. Et ce fond chrétien dans les classes dirigeantes aux États-Unis, maintenant, il est complètement, en particulier dans le Parti démocrate, il est complètement. Annihilé. Donc ils ont plus de morale, ils ont plus de Dieu, et donc on peut pas leur faire confiance. Et c'est un truc.
Je pense qu'une des choses très très à l'œuvre quand vous avez la chance de discuter avec des dirigeants aussi bien chinois que indiens, mm-hmm. et j'ajouterais aussi assez volontiers russe, c'est l'importance du fait civilisation.
Oui, tout à fait.
Les grands discours des grands dirigeants dans le monde aujourd'hui parlent tous de politique de civilisation.
Oui. Et de dire on est une civilisation.
Parler de politique de civilisation, Narendra Modi parle d'une politique de civilisation qui est résumée par Lynn Doutova. Et on voit bien que les États-Unis n'ont plus aucun discours de civilisation. Je crains d'ailleurs que l'Europe ne les suive sur cette voie, parce que pour répondre à la question que vous avez posée, je pense que les États-Unis sont hors sol. Les États-Unis sont aujourd'hui conduits par une forme de cupidité et de sens messianique qu'ils continuent à incarner dans le monde, totalement hors de touche avec la réalité. Le grand drame, je suis député européen, je suis aussi conseiller régional, élu dans les Pays de la Loire, donc avec un pied sur un territoire qui est le mien et que j'aime. Ce que je constate année après année, c'est à quel point les institutions européennes et le Parlement européen lui-même sont totalement hors sol. Il n'y a plus aucun rapport avec ce qu'ont été les si brillantes civilisations européennes et la culture européenne. Il n'y a plus aucun rapport avec les territoires européens. Et je pense tout simplement que, faisant cela, l'Europe ou les nations européennes sont en train de perdre la qualité de dialogue civilisationnel qu'elles pouvaient avoir avec des pays comme la Chine ou l'Inde. Si nous perdons nos cultures et notre civilisation, nous n'avons plus rien à leur dire et nous n'avons plus aucune raison de susciter leur confiance. Je pense que cette mise hors sol, cette espèce de bulle dans laquelle s'enferment les institutions européennes est extrêmement grave.
Venons-en à ça, parce qu'il y avait Huntington, vous savez celui qui avait écrit là, La guerre des civilisations, son dernier livre, c'était, je crois, un livre qui s'appelait « Qui sommes-nous ?» et dans lequel il disait qu'il y avait un grand danger qui était en train d'apparaître, c'était l'émergence dans ce monde très ouvert d'une espèce de classe qui n'aurait plus rien à voir avec les nations sous-jacentes et qui trouverait que... Et on y est en plein, donc encore une fois, Huntington a eu raison, c'est-à-dire qu'on a fait émerger une espèce de classe, et moi j'ai écrit des papiers en disant « c'est pas parce que vous avez gagné beaucoup d'argent que vous êtes intelligent, c'est pas parce que vous avez gagné beaucoup d'argent que vous êtes capable... »
Cultivé.
Que vous êtes cultivé, que vous êtes capable de comprendre une nation. Il y a rien, ça n'a rien à voir. Et donc aujourd'hui, ces gars-là qui ont des centaines de milliards de dollars nous expliquent qu'ils vont... Comme ils ont gagné des centaines de milliards de dollars, ils sont à même... l'homme ne vit pas que de pain, je veux dire, c'est idiot. Quand on voit les gens autour de Bill Gates qui disent qu'il faut que la population mondiale retourne à 500 millions d'habitants, on a envie de mettre des claques, quoi.
Ils sont probablement en train d'appliquer ce plan à travers la prise de contrôle de l'OMS qui va dicter nos politiques de santé, à travers les pouvoirs absolument exorbitants des grandes sociétés pharmaceutiques, les fameux Big Pharma.
C'est pour ça qu'on
a vu à l'œuvre lors de la pandémie de
COVID. Ce brave. Le grand journaliste américain là, vient d'être viré, c'est qu'il avait fait une tirade.
Tucker Carlson,
il a été viré parce qu'il a fait une tirade contre les sociétés pharmaceutiques. Il faut savoir, pour que les gens qui nous écoutent, que dans le fond, les États-Unis aujourd'hui sont gouvernés par trois lobbies, les sociétés pharmaceutiques, le représentant, c'est la vice-présidente américaine,
Kamala Harris,
les sociétés d'armement, le représentant, c'est Biden, et puis le... Et la troisième, c'est tout ce qui est les avocats, vous savez, Wall Street, etc. Et ces gens-là, comme vous le dites vous-même, ils n'ont plus aucun contact avec les populations locales.
Alors, le drame, Charles Gave, je ne sais si Xavier Hofer partagera mon opinion, le drame, c'est qu'un phénomène analogue est en train de se passer en Europe et particulièrement en France. Je vais prendre trois exemples. Quel parti politique, quel dirigeant politique sont en train de parler au nom de ces millions de Français qui se sentent expropriés de leur logement parce qu'en raison de lois soi-disant écologiques absurdes, si vous n'isolez pas votre logement aux normes, c'est-à-dire s'il est qualifié de passoire thermique, vous n'avez plus le droit de le louer et bientôt vous n'aurez plus le droit de le vendre.
Ni de l'assurer.
Des millions de Français se sentent expulsés de chez eux. Même chose pour le droit de circuler avec votre voiture.
On vivait dans ces maisons depuis 5 siècles.
Exactement. Et par ailleurs, c'est une destruction de patrimoine, puisque vous avez une maison construite en préfabriqué depuis 10 ans, elle est aux normes, il n'y a aucun problème. En revanche, le bâti ancien, historique, quelquefois de grande qualité, les cœurs de village, vont devenir inhabitables, il sera impossible de les louer, il sera impossible de les habiter.
Donc ils vont tomber en ruine.
On organise la mise en ruine, on organise la destruction du bâti français, ancien et de qualité.
Et pourquoi ?
Deuxième chose... au nom des normes d'isolation, zéro carbone, lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième
idéologie.
Deuxième raison égale totalement hors sol. Vous savez bien qu'à partir de 2024, votre vieille voiture qui fonctionne au diesel ou en essence ne pourra plus rentrer dans les agglomérations de 150 000 habitants. Soyons concrets, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller à l'université, que vous ne pourrez plus aller à l'hôpital. Dans certaines agglomérations, je crois comme Toulon, vous ne pourrez plus aller à l'aéroport. On prive des millions de Français de leur droit tout simplement à la mobilité, de leur droit de se déplacer.
C'est un gros progrès, vous savez, dans le Moyen-Âge, les serres étaient attachées à la glèbe.
On y retrouve la même chose. C'est-à-dire, vous avez une classe d'élite prédatrice qui, elle, se garde le droit de voyager partout, les fameux « nowhere », et les gens de quelque part n'auront plus le droit de sortir, du fief qui leur sera alloué. Et puis, la troisième chose, c'est quand même l'escroquerie numérique et du digital, avec un totalitarisme qui s'avance et que personne ne veut voir venir. Quand je vois l'absence de débat à l'Union européenne qui est en train de ratifier la monnaie digitale de banque centrale, ce qui veut dire que la banque centrale connaîtra tous les paiements si des gouvernements ne se lèvent pas pour maintenir les paiements en espèces. Giorgia Meloni l'a fait courageusement en Italie. La Pologne est en train de dire qu'ils garderont des espèces. J'attends que l'Allemagne y lève la voie. Et je me demande qui en France est en train d'élever la voix pour défendre les paiements en espèces qui sont la seule garantie d'anonymat. Même chose pour la santé numérique. L'immense escroquerie de la santé numérique, c'est la mort de la médecine libérale. C'est le fait que bientôt, vous allez décrire sur Internet vos symptômes et on vous enverra directement à un généraliste, à un spécialiste, ou on vous enverra directement à Big Pharma qui vous fournit les traitements. Nous sommes en train de tuer ce qui était l'une des richesses de la France, qui était la médecine libérale. Le médecin de famille, celle ou celui qui était capable, parce qu'il connaît votre famille, votre femme, vos enfants, vos antécédents, de vous dire « Monsieur, ce que vous avez, c'est pas bien grave, je vais vous donner un petit traitement, mais vous inquiétez pas. Ah là, vous avez un problème, il faut immédiatement consulter. » C'est le numérique qui va tuer tout ça. On est en train de dépersonnaliser, de déterritorialiser, de déshumaniser nos sociétés. Et, pardon, j'en aurais fini, mais ce qui se passe aux États-Unis et à son pendant en France et en Europe, c'est avec cette espèce de mise hors sol de nos élites et de nos élus qui me semble complètement imperméable à ce qui se passe sur les territoires. C'est pourquoi j'ai créé le mouvement localiste. C'est pourquoi tant d'élus locaux et territoriaux me demandent quoi faire, comment défendre les libertés locales, comment défendre la médecine libérale, comment défendre la capacité de se déplacer et d'habiter et de garder sa maison ou son appartement, bref. Et ça, c'est le problème de la mise hors sol et de la trahison des élites. Il faudra bientôt réécrire le livre de Julien Bada.
Oui, c'est tout ça, c'est bien. Mais ce qui m'embête avec tout ça, c'est que on voit bien d'où ça vient. C'est une de ces tendances lourdes dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de rupture. Mais on ne voit, pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à faire monter la sauce pour qu'il y ait une reprise en main par les citoyens de leur destin. Pour l'instant, la droite est inexistante, la gauche, si j'ose dire, la droite a trahi la nation, la gauche a trahi le peuple, donc on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est, vous voyez ça aussi, cette espèce de prise de pouvoir par des gens qui, dans le fond, nous méprisent. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est
ça. Ils s'en foutent.
Et c'est ça. Pour la première fois dans l'histoire de France, je crois que le roi de France n'aime pas son pays. C'est une nouveauté extraordinaire.
Oui, 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 ils s'en moquent, c'est pas ses oignons.
Lui, il s'intéresse
à ça. Il est à moitié à Wall Street, à moitié dans la City de Londres, et le reste, ça l'a.
Voilà. Reste un petit peu à Bruxelles, beaucoup. Et parler de souveraineté européenne, c'est un mensonge. Donc, alors, on voit que, quand vous parlez des hommes, des nowhere et des everywhere, moi j'avais dit il y a quelques années qu'il y avait les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Vous savez, c'est une idée qui vient de... Bon, les arbres, c'est ceux qui vivent là, et les hommes des bateaux, c'est ceux qui coupent l'arbre pour aller faire une pirogue et pour aller voir si l'île d'à côté est pas mieux. Bon, mais aujourd'hui, on voit bien que dans le monde entier, les hommes des arbres ont repris le pouvoir partout. En Inde, en Chine,
sauf chez nous,
au Brésil, et chez nous, et aux États-Unis, il y avait Trump qui était un peu un homme d'un arbre. Un homme des arbres, qu'est-ce que lui a mis? Il a été obligé, enfin, il a pas gagné, ben, bref. Donc, il y a quand même des forces dans notre monde qui sont extraordinaires, qui empêchent quiconque d'émerger, quoi.
Alors, pour compléter ce que disait Hervé d'abord, sur le territoire français, oui, les problèmes de sécurité, en réalité, sont des problèmes d'aménagement du territoire. Dans un petit village, la troisième fois que la pharmacie est braquée, elle ferme et les gens doivent prendre leur voiture pour aller à 30 km chercher un cachet d'aspirine. Quand les commerces ferment, quand la ligne d'autobus ne peut pas aller au bout de la ligne parce qu'elle a cité hors contrôle et que donc elle fait demi-tour deux stations avant, sans le dire, hein, c'est des autorégulations des chauffeurs de bus. Quand la supérette a fermé parce qu'elle a été pillée 30 fois, quand la banque locale a été obligée de fermer parce qu'elle a été braquée 10 fois, des zones entières du territoire deviennent hors contrôle et là s'impose l'ordre criminel. C'est-à-dire les endroits où on peut trafiquer de la drogue.
Mais ça s'était passé à New York, mais Giuliani est arrivé.
Oui, oui. Et puis, il y a eu une reprise en ordre.
À New York, mais là, c'est en train de partir en digue-digue à New York, c'est certain. Mais pendant quelques années, New York, ça a été à contre-courant, tout ça. C'était,
voilà, on a vu le nombre d'homicides tomber de 2200 par an. Je parle de l'agglomération de New York à moins de 200, quoi. C'est-à-dire que il y a eu
Ça, toute cette espèce de rupture de l'ordre journalier, la vieille dame qui ne peut pas sortir de chaîne, c'est uniquement une question de volonté politique.
Ah, totalement. Tout ça relève de la volonté politique.
Et pourquoi n'y a-t-il aucune volonté politique là-dessus?
Mais parce que dans la tête, vous savez, la France
c'est mal vu d'être policier.
Non, c'est pas ça. C'est la France, c'est une monarchie ratée. Donc, il y a une fonction publique du sommet qui vit depuis des siècles dans l'observation très précise de ce que veut le roi, parce que c'est de là que tombent les prébendes, c'est de là que tombent les postes, c'est de là que tombe la carrière, quoi. Et donc, ils n'ont pas été longs à s'apercevoir que les problèmes d'ordre et les problèmes régaliens, Monsieur Macron s'en moquait. Il y a eu l'épisode de Borloo. Pour les cités sensibles, comme on dit. Tout ce que disait Borloo n'était pas idiot, il avait des idées intéressantes. Alors, Macron a regardé, il a soulevé le couvercle de la marmite, il a vu ce qui bouillonnait à l'intérieur, il a fait « oups », et il n'y a plus touché, il avait renvoyé M. Borloo à ses chères études, et il n'a plus du tout touché à ce secteur-là d'activité, sauf de temps en temps pour faire une espèce de réflexion abstraite et lointaine, comme ça. Donc, la haute fonction publique, c'est que ça ne l'intéresse pas. Pour le dirigeant de la France, à l'heure actuelle, les affaires régaliennes, c'est Cro-Magnon, quoi. C'est des trucs qui ont 2000 ans, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, lui, il vit dans une Californie fictive.
Donc, les affaires régaliennes, c'est la défense, c'est la police, c'est la justice.
La justice, surtout. Nous sommes un état de droit, la justice est cruciale. J'ai vu le pitre qu'on a à l'heure actuelle.
Oui,
le ministre de la justice mis en examen, qui fait des bras d'honneur à la représentation nationale. On n'a jamais vu ça, quoi.
Non, mais lui, c'est un... Donc, quelque part, l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire et fait des tas de choses qu'il ne devrait pas faire. Quoi. C'est à peu près ça.
Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose rapidement sur ce que vous avez dit tous les deux. Il se trouve que depuis 1996, donc j'enseigne en Chine, à l'Académie de la police chinoise, à Shenyang, dans le nord de la Chine. Et donc, quand on connaît des gens dans ces milieux-là, petit à petit, on arrive à Pékin à voir des gens, et puis après ça, on sait qu'on est en confiance. Ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que les hauts dignitaires vous confient leur fils ou leur fille quand il fait des études en France, hein, voilà. Et donc, on devient un peu le tuteur, et puis les gens vous parlent. Et à plusieurs reprises, on a accédé à des gens importants, comme ça, ça fait plaisir qu'on dîne ensemble. C'est toujours l'oligarque du coin qui dit à mon ami machin, tenez, on va faire un banquet ensemble. Vous avez vécu ça dans votre domaine. Et donc, on s'est trouvé, une fois, un collègue et moi, avec le patron du Conseil national de sécurité chinois. Personnage tout à fait considérable, c'est Xi Jinping qui l'a imposé, parce que le Conseil national de sécurité chinois, ça relève direct de la présidence, c'est pas une émanation du comité central du parti, hein. C'est une structure étatique et pas partisane, voilà. Donc on dîne avec lui, il arrive à la table, pour banquier important, donc c'est l'oligarque qui parle très bien le français, qui traduit, il n'y a même pas d'interprète, on est entre nous, à 4 ou 5 autour de la table. Enfin, surtout, pas 8, mais...
Mais ça dure longtemps. Hein.
Voilà, ça dure longtemps, voilà. Exactement, parce que c'est lent. Et on voit ce personnage extrêmement agité, extrêmement ému, au bord des larmes, etc. Et au bout d'un moment, il s'arrête de parler et l'oligarque nous traduit. C'était la première fois qu'il était en contact avec des Français physiquement autour de la table. Parce qu'ils vivent toujours dans la cité interdite. Hein. Et donc, il disait « J'ai appris le monde par Victor Hugo. Les Misérables, c'est le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. Votre culture est incroyable. Il y a deux cultures au monde, c'est nous, les Chinois, et vous, les Français. »
Quand on parle de la bouffe, c'est pas faux.
C'est, oui, mais aussi dans le domaine de la littérature, du génie national, etc. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. C'est ça qu'on peut, qu'on risque. C'est, le pire n'est jamais sûr, mais qu'on risque de perdre. Vous avez vu l'Union européenne ? Il suffit de regarder un billet de banque. Qu'est-ce qu'il y a sur les billets de banque de l'Union européenne ?
Des
gribouillis.
Non, seulement des espèces de monuments vaguement romains qui n'ont jamais existé.
Oui, oui, exactement. Ils ont honte de leur passé. Ils craignaient
que la figure, ça j'ai suivi ce débat, ils craignaient que des figures de personnes ayant réellement existé ne provoquent la dissension ou la zizanie, puisque c'était nécessairement des héros nationaux, ouais. Et que le but de l'Union européenne, c'est de gommer tout ce qui peut être gloire nationale.
Ben oui, mais c'était
politiquement très précis.
Oui, mais le résultat est qu'on a des billets qui ne veulent rien dire, qui n'intéressent personne.
Me permettez-vous, Xavier Ruffer, vous le savez très bien, me permettez-vous quand même de revenir sur Victor Hugo.
Oui.
Ce que l'on apprend très vite, puisque j'ai eu également le plaisir d'enseigner en Chine de longues années, ce qu'on apprend très vite des hauts fonctionnaires, futurs diplomates parlant français, c'est la vénération qu'ils ont pour Édith Piaf, mais aussi pour Victor Hugo. Parce que on a quand même fait deux guerres en 1839 et en 1856 pour obliger les Chinois à se droguer, à acheter de l'opium pour équilibrer la balance des paiements britanniques. Les Chinois n'ont rien oublié.
Bien sûr.
Et après le sac ignominieux du palais d'été, y compris avec des troupes françaises, Victor Hugo est la seule grande voix qui s'est élevée pour dire, je cite de mémoire, « Il y avait une merveille qui a fait l'admiration des générations, qui était une des plus grandes splendeurs du monde, et ce sont malheureusement des soldats de chez nous, des Français, qui l'ont détruite. » Ça, ça vaut une vénération à Victor Hugo, de la part de Chinois, qui n'ont rien oublié et qui sont en train de prendre leur revanche. Mais je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. Les humiliations passées, de même pour l'Inde, ils n'en ont rien oublié.
Non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils livrent beaucoup de drogue aux États-Unis aussi. C'est, le fentanyl,
c'est peut-être la réponse du berger à la bergère, avec
200 ans après, ce serait...
Sur le gaffe, je voudrais revenir sur ce qu'indiquait Xavier Ruffer, qui me paraît très important, mais sur la question que vous avez posée. Je crois que ce qui se passe en France en ce moment est grave, parce que pour la première fois peut-être dans l'histoire... Une majorité de Français a l'impression que le roi, qu'ils ont réélu, peut-être par défaut, mal en tout cas, mais le roi qu'ils ont réélu ne s'intéresse plus à la France, ne s'intéresse plus aux Français, et qu'il ne cherche pas à défendre l'intérêt de la France ou l'intérêt des Français. C'est très clair dans beaucoup de domaines, c'est une indifférence à peu près totale à l'enfer dans lequel un certain nombre de Français sont en train d'être plongés pour les raisons de sécurité que vous évoquez, pour d'autres raisons également. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très grave. La légitimité du politique, c'est l'intérêt national et c'est la défense de l'intérêt des Français. Un président qui ne s'occupe plus de l'intérêt national ou qui ne prend plus en charge l'intérêt des Français met en cause sa légitimité. Et je pense que la gouvernementabilité, comme l'aurait dit Michel Foucault, de nos pays, en France, comme d'ailleurs en Israël, comme d'ailleurs aux Pays-Bas, la révolte des fermiers néerlandais en raison des normes écologiques et environnementales qu'on veut leur imposer. Je pense que c'est extrêmement lourd dans nos démocraties parce qu'on a une crise de la capacité à gouverner tous nos dirigeants qui est fondée sur le fait que, comme vous l'avez dit, nous n'avons plus le sentiment que nos dirigeants nous défendent, qu'ils nous représentent et qu'ils privilégient nos intérêts.
Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire à ce moment-là, c'est on se rend bien compte que la constitution de la cinquième, ça marche pas du tout. La démocratie représentative, ça marche pas du tout. Et on a un pays juste à côté de chez nous, qui s'appelle la Suisse, où ils ont une démocratie directe et où les citoyens peuvent... Et dans le fond, est-ce que la solution, ce serait pas de monter un mouvement pour redonner la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple ? Est-ce que ce serait pas... Et au moins, on aurait les juges, si le peuple a parlé, ben ils ont plus grand-chose à dire, quoi. Ils ont pas... Donc je me demande, parce que c'est aussi cette espèce de faiblesse incroyable, c'est la faiblesse du système démocratique représentatif qu'on a mis en place il y a 200 ans et qui, à l'évidence, ne marche plus.
Enfin, c'est aussi, Charles Gaffe, si vous me permettez, c'est aussi la destruction méthodique de tous les corps intermédiaires. C'est aussi la destruction méthodique de tout ce qui pouvait s'opposer à ce qu'évoquait très bien Xavier Ruffer. C'est la petite aristocratie bureaucratique de la haute administration et de plus en plus du pouvoir financier et du pouvoir d'entreprise qui essaye de ne plus supporter aucune contradiction. On a détruit les chambres de commerce, on a détruit le pouvoir des collectivités territoriales qui ont soi-disant certains pouvoirs mais qui sont entièrement sous le contrôle du préfet et des financements qui viennent de Paris. Bref, on a détruit tous les corps intermédiaires. Je ne parlerai pas des syndicats. syndicats, etc. Oui, ça, et c'est à l'origine aussi des crises que nous vivons.
C'est très dangereux parce que si jamais il y a une révolte qui démarre, il n'y a plus rien pour la colmater.
Non, même pour la diriger.
On ne sait plus à qui parler.
Oui, oui. Voilà. Alors, c'est ce que vous disiez, mais c'est simple, c'est connu dans l'histoire de France. Pendant des siècles, le réflexe des petites gens, c'était « Ah, si le roi savait ça !» Voilà. Alors, on passait par-dessus les corps intermédiaires. Au Moyen-Orient, c'est pareil, le majlis. Hein. Alors, on peut interpeller le cheikh, le rouleur, en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» etc. Là, ça n'existe plus. Alors, ça veut dire que quand ça commence à galoper, on ne peut plus l'arrêter. Le chat avait fait ça en Iran. Voilà. Et ça galope jusqu'au sommet.
Vous savez, la figure de tous nos dirigeants en Europe, c'est la fameuse figure éculée de Tex Avery. C'est le personnage qui court bien après avoir passé le bord de la falaise tant que la musique joue. Mais quand la musique s'arrête, il tombe. J'ai peur que dans nombre de pays européens, j'ai peur également qu'en France, la musique ne soit bientôt en train de s'arrêter.
Donc, moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est autre chose. C'est que moi, je suis, comme vous le savez, un vieux financier. Et quand on demandait à Oscar Wilde comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début et très vite à la fin. Et ces espèces de périodes de décadence, oui. Ça prend un temps fou. Et puis, d'un seul coup, il y a une espèce d'accélération et tout s'arrête. Oui. Et j'ai vu ça dans les faillites des entreprises. Il a fallu 20 ans pour que TWA et Paname fassent faillite. Oui. Ça prend un temps fou. Mais vous saviez 20 ans avant qu'ils étaient en faillite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est... J'ai l'impression, mais presque physique, en regardant les gens dans la rue, etc., qu'on est dans une période d'accélération, que l'accélération a commencé.
On le sent beaucoup par rapport au dollar et aux États-Unis. On le sent beaucoup par rapport à la chute du dollar dans les transactions internationales, dans les réserves des banques. On le sent beaucoup à travers le côté totalement hors du réel des revenus et de la soi-disant fortune américaine. Mais qu'est-ce que ça signifie dans le produit national brut des États-Unis, des avocats qui facturent 10 000 dollars de l'heure de consultation? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire pour le niveau de vie de la population? Donc on est très loin au-delà de la falaise.
Mais je veux dire, c'est encore une fois, on peut être en lévitation pendant un moment, mais prenons simplement l'exemple de la dette en France. Aujourd'hui, si les taux d'intérêt étaient là où ils devraient être, aux alentours de 7%, parce que c'est à peu près là où est l'inflation, c'est pas très. Tout le service de la dette boufferait toutes les recettes fiscales, il n'y aurait plus rien pour l'armée.
Le budget de l'État ne servirait plus qu'à payer la dette.
Voilà. Eh bien, si vous voulez, quand on arrive à des trucs comme ça, on se dit qu'on ne doit pas être loin de la fin quand même.
Oui. Et on le sent d'autant mieux. Et ça nourrira sans doute la suite de notre conversation. Il y a des endroits au monde où on le sent très bien. Exemple, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on vit dans une espèce d'ambiance factice. Depuis maintenant pas mal d'années, au Moyen-Orient, on m'a dit, un ami m'a dit, je vais t'amener à Mascat, je vais t'amener à Oman, parce que c'est là où tout se passe. Vous n'avez jamais un mot sur Mascat ou sur nulle part. Et j'ai été sur place, j'ai vu des gens, j'ai compris que, à sa manière, le sultan Qaboos était un génie de la politique, que le lundi, il voyait l'émissaire de Khamenei, le mardi, il y avait Netanyahou qui passait chez lui, que le mercredi, c'était un Chinois, etc. Que tous les accords en douce, tout ce qui permettait de faire fonctionner les prémices du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, c'est à Mascat que ça s'est fait. Et on vit dans un monde étrange où les choses importantes ne sont pas vues, ne sont pas connues. Ou par exemple, il est clair, tous les gens qui font de la géopolitique le savent, enfin sérieusement, que le cœur battant de l'Eurasie en 2030, mais donc très vite, demain matin, c'est la mer Noire.
Oui, bien sûr.
Voilà. Que la mer Noire, la moitié de la pince, c'est la pince russe, que la deuxième moitié de la pince, c'est Erdogan, que Erdogan, par un coup de génie, a dédoublé les Dardanelles et puis le Bosphore avec cette espèce d'énorme canal qui a, pour le 21e siècle, l'importance qu'a eu le canal de Suez pour la fin du 19e et le début du 20e. Je feuillette avec désespoir tous les médias français. Il n'est jamais question de ça.
Non, mais il est tout à fait évident, j'en ai parlé beaucoup ici, qu'on voit arriver, j'en ai parlé, une espèce d'arc qui part aller de Sébastopol et oui. qui va jusqu'à Mumbai.
Bien sûr.
Et que c'est là que tout va se passer.
Bien entendu, bien entendu.
Et on le voit très bien.
C'est la fin, c'est le terminal de One Belt, One Road des Chinois. Oui, oui. C'est l'endroit où l'Eurasie se joint. C'est l'endroit où
il y a des populations et il y a aussi les plus grosses réserves d'hydrocarbures, parce qu'entre l'Irak, Qatar, l'Iran, etc., vous avez des réserves de gaz ici et là-bas qui sont absolument inimaginables.
Dont les Iraniens n'ont pas tout dit.
Dont les Iraniens, et encore moins les Qataris. Donc, grosso modo, on va avoir une population jeune, pas mal favorisée, et qui aura l'énergie la moins chère du monde. Et qui, pour une fois, sera en paix.
Oui.
Eh bien, il va se passer des trucs phénoménaux, là.
Ah oui, grandiose, grandiose.
Grandiose.
Il faut y être.
Il faut y être, c'est ce que je dis. Et tout le monde m'explique que la Russie est tombée esclave de la Chine. J'ai dit, attendez, vous ne voyez pas ce truc qui est en train de se passer vers l'Inde. Pour l'instant, il y a une espèce d'alliance qui se fait entre l'Inde et la Russie, qui est aussi un truc qui est intéressant.
Un
monde nouveau émerge. Alors justement, s'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour faire des trucs intéressants, etc., où y sont les gens en France qui travaillent dans l'ombre pour aider notre pays?
Non, ils sont en tout cas, quelle que soit la conscience... qu'ont les gens, ils ne peuvent plus le dire. Parce que maintenant, toute dissension est interdite. J'ai commencé à voir ça dans les médias officiels, les médias institutionnels, vers 2012. Il y avait des journalistes, ça date de 2012-2010, comme ça. Il y a des journalistes qui m'appelaient et qui disaient « Alors voilà, on va vous faire intervenir ce soir dans l'émission. Et ce que j'aimerais que vous me disiez... » Alors, poliment, je disais, non, vous posez les questions et je donne les réponses. Bon, on vous rappelle. Alors, voilà. Alors, et puis, naturellement, ils ne rappelaient jamais. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle maintenant... Ça porte un nom dans les médias radio-télévision, ça s'appelle la tonalité d'antenne. La tonalité d'antenne, ça, dans le temps, en URSS, sous Staline, ça s'appelait la ligne du parti, vous voyez. Voilà. Donc, il y a une... Et quand on leur dit, mais attendez, regardez là ce qui est en train de se passer, plus les choses sont visibles, plus elles sont claires, plus elles sont évidentes, et plus ils font « Ah, oups !» et puis ils vont se cacher, parce que naturellement, ça serait trop vrai, trop terrible si c'était vrai. Donc, ça ne peut pas l'être. C'est pas la politique de l'autruche, c'est la politique du pangolin, vous voyez. On va s'enterrer dans un coin, et puis on n'en sort plus. Donc...
Il n'y a pas d'organisation, il n'y a personne en France qui soit, ou en Europe, qui soit en train d'essayer de...
Si, mais ça n'a pas encore émergé, ça n'a pas encore éclaté à la surface de la conscience.
Il y en a qui bossent.
Et nous sommes... Bien sûr, bien entendu.
Ah bon, ben tant mieux.
Mais Charles Gave, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse dans l'Union européenne, un petit peu moins en France encore, et j'espère que ça va durer. Mais permettez-moi quand même de rappeler les malheurs qui sont arrivés à ce grand géopoliticien qu'est Emmanuel Macron, quand il s'est permis de répéter une formule, celle de l'autonomie stratégique, à son voyage en retour de Chine. Enfin, la volée de bois vert a été universelle.
Tonalité d'antenne.
Exactement, la tonalité de l'antenne ne permet pas, y compris au président de la République française, de parler d'autonomie stratégique. Permettez-moi de dire que c'est peut-être un des mots intelligents et intéressants qu'il a eu depuis pas mal d'années.
Il a dit une chose de son contraire tout le temps, il n'a pas dit que des bêtises.
Exactement.
Comme disait un de mes amis, non seulement il n'a pas dit que des bêtises, il en a écrit beaucoup aussi.
Ce qui est extrêmement inquiétant en Europe et en France, mais c'est ce à quoi je crois que Xavier Hofer faisait allusion, c'est que ceux qui maintiennent des relations avec des interlocuteurs chinois, avec des interlocuteurs indiens, n'a peut-être même qui continuent à fréquenter des Russes, tout simplement, ils sont pratiquement frappés d'ostracisme. C'est tabou. Ils ne peuvent pas le dire. On est en train de fermer les portes et les fenêtres.
Il vous arrive quelque chose, quand même, dans ces cas-là. C'est que moi, je suis libre de ma vie. Voilà, je vais où je veux et puis je n'ai pas besoin de rendre compte. Donc, récemment, j'étais en Pologne. Et il y a des académies militaires là-bas. Mmh. Et dans une des académies, il y a des gens que je connais bien, parce que je les avais invités pour des réunions, donc j'ai été en privé. Ils sont un peu moins pharaux qu'en public. Hein. Ils savent, ils sont sur place. Ils savent que l'Ukraine, c'est en partie la Pologne.
On leur a piqué une partie de l'Ukraine. En gros, on en a piqué une autre partie. Et puis, donc là, l'Ukraine, c'est un faux pays, quoi. Il y a un peu des Ukrainiens au milieu, puis il y a des Russes à droite, il y a des Polonais à gauche, et puis il y a des Hongrois en bas, puis il y a des Roumains quelque part aussi. Donc c'est un faux pays, quoi.
Ils sont inquiets parce que chose dont on ne parle pas. Enfin, j'ai commencé, ça y est, ça commence à s'embrayer. Il y a, avec l'histoire des Balkans du temps de l'OTAN, il y avait un problème qui était apparu, c'est qu'on a ouvert une boîte de Pandore, qui était l'Albanie, avec sa criminalité organisée qui est, qui est terrifiante. Hein, voilà. Donc, il faut avoir entendu des interceptions téléphoniques où, en Belgique, les Tchétchènes disaient « Attention, les Albanais arrivent, c'est pas bon, ils sont méchants ». Voilà, donc ça montre un peu le niveau de la chose. Et là, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui est 1000 fois plus grande, qui est toute l'espèce d'énorme cordillère de montagnes qui traverse l'Europe de l'Est, qui s'appelle les Carpates, que personne n'a jamais réussi à dompter, qui est encore en partie, mais je dirais limite inexplorée. Il y a des forêts primordiales qui ont 10 000 ans, dans lesquelles il y a les 9 dixièmes des ours, des lynx et des loups d'Europe, et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais c'est en train de se criminaliser à grande allure, et pour la première fois, j'ai fait un article là-dessus la semaine dernière, pour la première fois, on vient de récupérer en France 5 tonnes 5000 kilos de cachets de drogue chimique, d'ecstasy, et qui avait été fabriqué dans cette zone des Carpates, qui est une Albanie à la taille 1000. La cordillère des Carpates, elle fait 200 000 kilomètres carrés. Elle part de la Serbie, elle remonte vers la Roumanie, elle traverse toute l'Europe, et elle s'achève en Pologne. C'est un truc dont ni l'Empire romain, ni l'Empire ottoman, ni l'Empire austro-hongrois, ni le Saint-Empire romain germanique sont venus à bout. Alors, on met des garnisons, on dit au type, vous restez là, s'il y a des sauvages qui passent par le haut de la montagne, vous les tuez, vous les repoussez de l'autre côté. Et c'est ce truc-là qu'on est en train de criminaliser à l'heure actuelle. Et bien entendu, un beau jour, nos frères américains repartiront chez eux, et c'est sur nos bras que ça va rester, comme les mafieux en Sicile.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et dans le fond, on arrive toujours à la même chose. C'est ce que disent la plupart des gens quand vous parlez en Asie. Ils disent, bon, ben, les Américains, ils ne seront peut-être pas toujours là, mais la Chine, elle sera toujours là à côté de chez nous.
Donc... Oui. Donc, la géographie partout s'impose à l'histoire. C'est clair.
C'est assez... Donc ils disent, moi, je vais être... Les Indiens, tout ça, ils vous disent, moi, on me demande de choisir entre celui-là et celui-là. Je choisis pas, je reste au milieu. Mais ils ont bien raison. Oui. Parce que choisir, c'est un truc embêtant. Donc, écoutez, vous regardez cette conversation de temps en temps, parce qu'on n'est pas arrivé à des... Bon, moi, les lignes de force qui s'imposent, c'est que on voit émerger cette espèce de croissant là qui vient de Turquie et qui descend. Ça, c'est une constante et je crois que ça va rester. On voit émerger la dédollarisation. Ça, je crois que la monnaie américaine va perdre son cours forcé en quelque sorte. On voit arriver un système monétaire du côté autour de la Chine qui sera stabilisé par la Chine, c'est-à-dire que là aussi pour essayer de sortir les, on va voir arriver des marchés financiers partout pour essayer de que l'épargne locale serve à financer les besoins longs à la place de l'épargne, de soi-disant épargne américaine qui n'existe pas. Donc tout ça, ça veut dire qu'à terme, les États-Unis vont se replier sur leur forteresse du Nord.
Alors, je voudrais reprendre un concept, celui énorme, foudroyant, dont se servent Xi Jinping, dont se sert Poutine, dont se sert Erdogan, dont se servent les Israéliens, celui de nomos de la terre, l'ordre mondial. Voilà. Quand l'Union soviétique a explosé, l'ordre mondial a explosé avec, parce qu'il y avait une bipolarisation, et puis il y a un des deux piliers qui est tombé, donc nous sommes entrés. Bush le père, qui n'était pas le plus idiot des deux, disait New World Order, il voulait un nouvel ordre mondial. Mais on est rentré dans une vaste période de bazar, et aujourd'hui, peut-être est en train d'émerger un nouveau nomos de la Terre. Dans son livre, Carl Schmitt dit un nouveau nomos de la Terre, celui de l'Europe moderne. Tous les ordres mondiaux qui se sont fondés ont commencé par une appropriation territoriale. La conquête du continent américain, du continent occidental, et fonde, voilà. Et à l'heure actuelle et à son échelle, peut-être Poutine, peut-être Xi Jinping, peut-être Erdogan, ne voit autre chose dans la conquête d'une partie de l'Ukraine que l'acquisition territoriale qui permet l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Rien n'est sûr, l'histoire est ouverte, mais c'est une des éléments sur lesquels il faut se fonder.
Oui, pour compléter ce que vous dites et peut-être rappeler que Narendra Modi joue aussi un grand rôle en Inde dans ce domaine, il y a deux choses qui me paraissent éclatantes et qui sont notre problème français et européen. C'est que personne ne peut douter de la dimension historique des dirigeants que vous avez cités. Et je pense que personne, ni en Chine, ni en Inde, ni en Turquie, ni en Russie, ne pense que leurs dirigeants ne prennent des décisions ne travaillent et ne se battent pour l'intérêt de leur peuple et pour l'intérêt des citoyens chinois, indiens, russes ou turcs. Je ne suis pas sûr que beaucoup de citoyens européens aient le même sentiment aujourd'hui. Et puis la dernière chose, c'est que ce sont tous des hommes de civilisation. C'est très clair que le président Erdogan, comme Xi Jinping, comme Narendra Modi, comme l'a fait dans un discours assez remarquable le président Poutine, ce sont des gens qui prétendent ou qui portent les couleurs de leur civilisation. Je me demande si nous avons beaucoup de dirigeants européens qui portent les couleurs de la civilisation européenne.
Effectivement.
Mais il y a, pour porter des couleurs, il faut être porté aussi par une nation. Et l'Europe est une civilisation, mais pas une nation. Donc, on a un moment où c'était la France qui portait les couleurs de la civilisation européenne, et puis ça a été l'Espagne, et puis ça a été... Tout le monde, à un moment ou à un autre, a essayé de porter ses couleurs. Mais il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire de l'Europe où ça a été porté par des personnes qui se disaient anationaux. Et je crois que c'est une contradiction. Ça me paraît complètement idiot. On ne peut pas porter les couleurs d'une civilisation si on n'est pas porteur de la force militaire.
Alors, mais évidemment, tout à l'heure, Hervé disait ce qui s'est passé dans des pays comme l'Afghanistan, etc., les tentatives de créer du nation building. Les États-Unis n'ont jamais pu comprendre. J'ai usé, là où j'enseigne aux États-Unis, des litres de salive en vain à essayer de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas créer une armée nationale quand ne préexistait pas un État-nation. Qu'une marqueterie de tribus comme l'Afghanistan, aussi sympathique soit-elle, n'était pas une nation. Donc les types prennent les armes et après ça, ils retournent chacun dans leur tribu. Et c'est la fin de l'armée nationale. Voilà. Alors, il faut une armée nationale. La France a été historiquement le premier État-nation d'Europe. Et la preuve de tout ça, c'est que dans toutes les langues européennes, le vocabulaire de l'armée, le vocabulaire de la police, c'est du français. Dans la langue allemande, il n'y a pas un mot d'allemand. Général, régiment, artillerie, tous les mots sont français. Et pareil, le mot police.
On aurait mieux fait de ne pas leur apprendre.
Oui, non, mais, ça se transmet. Ça se transmet comme la peste.
Idées,
voilà. Les idées circulent.
Circulent, c'est assommant.
Voilà.
On ne peut pas mettre du protectionnisme contre les idées.
Non, et donc, pareil, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, la première force de police moderne du monde, c'est la lieutenance de police sous Louis XIV.
C'est là où il y a la préfecture de police à Paris, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Enfin,
il y a
le bâtiment, d'accord, exactement. Et c'est la raison, pour faire une petite incidence, c'est la raison pour laquelle le préfet de police, quand le ministre de l'Intérieur veut lui donner un ordre, il lui répond « Qui t'es, toi ?» comme disent les jeunes, là. Oui. Parce que la préfecture de police existe 80 ans avant le ministère de l'Intérieur. Et donc, ils disent « Oui, mais vous, les petits jeunes, c'est pas mal. » Voilà. Donc, c'est l'État-nation est fondamental pour les choses qui tiennent à la souveraineté,
et
notamment à l'armée et à la police.
Et l'État, si vous voulez, comme j'essaie de le montrer souvent dans ce que j'ai écrit, l'État, c'est l'envers d'une volonté de vivre ensemble. Et une volonté de vivre ensemble, elle a besoin d'avoir une monnaie nationale pour payer son État par les impôts.
Bien sûr.
Et donc, si vous n'avez pas de monnaie nationale, vous n'avez pas de volonté de vivre ensemble. Donc, l'euro était une façon de défaire toutes les nations européennes.
Ouais.
Et ils y arrivent très bien. Donc, l'une des choses qu'on doit faire, c'est retourner à nos capacités de financement propres et à retourner à nos monnaies. Donc, tout ça, c'est... vous savez, il y a Tonby qui disait quelque chose. Le rôle des élites, c'était de régler les problèmes des pays. Puis, s'ils n'y arrivaient pas... le même problème se représentait sous une forme différente, puis si on ne le traitait pas, à la fin, il n'y avait que trois possibilités, ou bien on changeait les élites, ou bien...
On les tuait.
On les tuait, c'était une façon de les changer qui était rapide. La deuxième chose, c'est que le système politique disparaissait, comme la royauté, hein, ou bien à la fin, c'était la civilisation qui disparaissait, ou la nation, puis la civilisation, c'est ce que disait Toynbee. Bon, vous prenez tous les... Et depuis 70 ans, le seul défi que les Européens essayent de relever, c'est que les Français et les Allemands arrêtent de se mettre sur la gueule. Donc on a bâti la solution aux guerres franco-allemandes, ça a été l'Europe de Bruxelles, qui était bien pendant les 20 ou 30 premières années. Mais maintenant, dès qu'on a un problème ailleurs en Europe, hop, on ressort les recettes pour le traité franco-allemand. Mais c'est plus ça le problème. Donc on a des élites qui passent leur temps à traiter le problème d'à côté et pas traiter les problèmes d'aujourd'hui. Quoi. C'est des problèmes d'hier, ça, ils savent faire.
Le grand problème, c'est le motto de l'Union européenne, toujours plus d'Europe. C'est-à-dire l'Union européenne est en train de s'approprier sans cesse, je pense à l'exemple de la santé. Est-ce que vous savez que la gestion des forêts va être retirée à l'Office national des forêts français, qui est une des premières institutions, une des institutions les plus compétentes du monde? Il y a du monde entier des missions, y compris chinoises, y compris d'Amérique latine, qui viennent voir comment fonctionne l'ONF. Eh bien, l'Union européenne a décidé que le sort des forêts, dorénavant, c'était une compétence européenne. De la même manière que la compétence sur la santé publique a été enlevée aux nations, maintenant pour la donner à l'OMS, dont on se demande bien qui les élit, qui les paye et qui ils représentent réellement.
Qui les paye, c'est Bill Gates. Donc voilà. Mais écoutez, on a du boulot, les gars, parce que c'est pas... D'abord, vous avez quel âge ?
Moi, 76.
76 ? Ah ben, on est de la même génération, 80.
66.
Ou Lucien Gamin. Donc, il verra peut-être des résultats, lui. Nous, ça va être un peu plus difficile.
On essaiera de durer,
on les aura.
On va essayer d'accélérer.
Mais merci beaucoup. Et puis, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire de temps en temps, essayer de faire un petit tour de piste comme ça pour voir si ça vous convient.
Votre disposition.
Voilà, ben on va peut-être faire ça un peu de temps en temps parce que là, on a un peu débroussaillé. Mais il va falloir chercher des pistes de solutions, des gens, des solutions qui ont été essayées ailleurs, qui ont marché.
Oui, mais là... L'énoncé du problème, disait l'autre, c'est la moitié de la solution.
Absolument.
Donc il faut, à l'origine et différemment de ce que j'ai dit, mais enfin, le sens était le même, ça remonte même à Platon, donc c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais pour l'instant, ce qui nous manque, c'est une volonté politique de gens qui se sentent portés par une légitimité. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de volonté politique et ils ne se portent pas par une légitimité.
Voilà, ben pour punir les gens, il faut être légitime, quoi. Ou pour les récompenser, dans les deux cas, il faut être légitime. Autrement, on n'ose pas le faire et là, à l'heure actuelle, on a affaire à des gens qui n'osent rien, quoi.
Qui pensent que faire quelque chose, c'est prendre un risque.
Oui, oui. Et puis, ils repoussent la patate chaude à la génération d'après.
Oui, mais la patate chaude, elle devient un peu brûlante.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.